Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur deux ensembles de documents vraiment intéressants. À première vue, bon, des sujets assez distincts. Mais en fait, ils touchent tous les deux à la manière complexe, on peut dire, dont les entreprises gèrent leurs affaires. D'un côté, on a des éléments sur la fixation des prix, spécifiquement pour les transactions financières internes au sein d'un groupe. Les prêts intra-groupes, les garanties de dette. Comment on s'assure que c'est évalué correctement ? Surtout pour ceux qui connaissent un peu les prix de transfert mais veulent aller plus loin. Et de l'autre côté, un sujet qui va sans doute parler à beaucoup de monde. Le traitement des commandes clients. Souvent un peu chaotique, non ? Très manuel encore parfois. Et là, l'intelligence artificielle qui arrive et qui promet de tout changer. Notre objectif aujourd'hui, c'est extraire l'essentiel, identifier les points importants et comprendre ce que ça implique concrètement. Alors, on y va. On décortique ça ? Commençons par la finance interne, les transactions intra-groupe. Les documents décrivent deux opérations courantes, les prêts, donc une société mère prête à sa filiale par exemple, et les garanties, où la mère se porte garante pour un prêt que la filiale obtient d'une banque. Des mécanismes assez standards dans les groupes, n'est-ce pas ?
Pour la gestion de trésorerie, le financement des filiales, mais la question cruciale, et c'est vraiment le cœur du sujet ici, c'est comment on fixe le taux d'intérêt pour ce prêt ? Ou la commission pour la garantie. Et ça, ce n'est pas du tout anodin. Partout dans le monde, les administrations fiscales, elles regardent ça de très très près. L'exigence de base, c'est que le prix doit être comparable à ce que des entreprises indépendantes feraient, sur un marché libre. C'est le fameux principe de pleine concurrence. L'enjeu est énorme. Éviter les transferts de bénéfices artificiels, quoi.
Ah oui, la conformité fiscale. C'est vraiment ça le moteur. Les documents parlent de plusieurs méthodes. Les analyses comparatives, le benchmarking comme on dit, consulter les devis bancaires aussi, ou prendre en compte le coût de financement de la société mère. Mais attention, il y a un point important qui ressort. Certaines vieilles habitudes ne fonctionnent plus. L'exemple donné, c'est de se baser juste sur le coût de financement de la mère au Japon avant juin 2022. Ça, c'est fini. Ce n'est plus suffisant. Qu'est-ce qui a changé au fond ?
C'est une très bonne question. Le changement majeur, c'est qu'on est passé d'une logique parfois un peu simpliste, basé sur le groupe ou le prêteur, à une analyse beaucoup plus rigoureuse, centrée sur l'emprunteur ou sur le bénéficiaire de la garantie. Ce qui est devenu absolument central, c'est l'évaluation de la solvabilité propre de l'entité qui reçoit l'argent ou la garantie. Dans l'exemple du prêt, il faut évaluer le risque de crédit de la filiale, exactement comme une banque le ferait. On sort de la vision purement interne pour adopter une perspective de marché, en fait.
Je vois. On met l'accent sur le risque réel de celui qui emprunte. Mais comment on fait ça, concrètement, surtout pour une filiale qui n'est pas forcément notée par S&P ou Moody's ?
Oui, c'est le cas le plus fréquent, bien sûr. La plupart des filiales n'ont pas de notation publique. C'est là qu'interviennent des outils spécifiques, comme ceux mentionnés dans les sources. Par exemple, S&P Capital IQ Risk Calc. Ces outils, ils fonctionnent un peu comme des modèles internes de notation bancaire. Ils analysent les données financières de l'entreprise, bilan, compte de résultat, et hop, ils estiment une probabilité de défaut. Et ils attribuent une note de crédit implicite, un shadow rating.
D'accord, donc on essaie d'objectiver le risque, même sans note publique. Mais ces outils, Risk Calc et autres, ce n'est pas un peu boîte noire ? C'est défendable devant le fisc ?
C'est une bonne question. Oui, les modèles sont complexes, mais ils sont reconnus sur le marché financier. Les banques, les régulateurs les utilisent. La clé pour la défense, c'est la qualité des données qu'on met dedans, des états financiers fiables et la documentation. Il faut expliquer pourquoi on a choisi cet outil, comment on l'a utilisé et comment la note obtenue a servi à fixer le prix. Et ce qui est intéressant, c'est que S&P, par exemple, va même plus loin. Ils ont une méthodologie pour évaluer la place de la filiale dans le groupe noyau, hautement stratégique, etc. Et ça, ça peut ajuster la note de crédit. Ça prend en compte le soutien potentiel du groupe. C'est plus réaliste. C'est technique, oui, mais c'est devenu quasi obligatoire pour bien justifier le prix.
Ah oui, d'accord. Même l'importance stratégique interne est formalisée et intégrée. C'est assez poussé. Bon, imaginons qu'on a cette note de crédit pour la filiale. Comment on passe de la note au prix OPP ? Pour les prêts, ça a l'air assez standardisé.
Oui, pour les prêts, c'est presque une norme de marché maintenant. La formule est simple. Taux d'intérêt égale taux sans risque plus marge de crédit, le spread. Le taux sans risque, c'est souvent basé sur les obligations d'état de même durée et devise. Et la marge, ben, elle dépend directement de la note de crédit de l'emprunteur et de la durée du prêt. Plus la note est basse, plus le risque est élevé, plus la marge augmente. Et pareil pour la durée. Les documents donnent un exemple concret, 5,9% d'intérêt. Pour trouver cette marge, on utilise des bases de données comme Refinitiv, Bloomberg, qui donnent les taux pratiqués sur le marché pour des entreprises comparables.
Très clair pour les prêts. Et pour les garanties, alors ?
C'est la même logique. La logique de fond, oui, rémunérer le risque. Mais les méthodes sont un peu différentes. On ne prête pas directement, on couvre un risque. Les sources parlent de deux approches principales. La première, souvent préférée, c'est l'approche par le rendement, le yield approach. L'idée, c'est de mesurer le bénéfice de la garantie pour la filiale. On estime le taux qu'elle aurait payé sans la garantie, basé sur sa propre note, et on compare avec le taux avec la garantie, basé sur la note du garant, souvent la mère. La différence, c'est l'économie réalisée, et ça sert de base pour la commission. La deuxième approche, c'est celle par le coût, cost approach. Là, on estime le risque pour le garant. Probabilité de défaut de la filiale, perte en cas de défaut, on ajoute une marge pour rémunérer le capital immobilisé. C'est une autre logique. L'exemple chiffré donné dans les documents, c'est 1% de commission, calculé avec l'approche par le rendement.
D'accord. Deux logiques, bénéfice pour l'un, coût pour l'autre. C'est logique. Les sources insistent aussi sur des pièges à éviter. Quels sont les points importants ?
Oui, plusieurs points pratiques. D'abord, les devis bancaires indicatifs. Une simple lettre d'une banque, ça ne suffit souvent pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une offre ferme, spécifique à la transaction. La banque n'a pas forcément fait l'analyse de crédit complète.
Ok. Pas assez engageant.
Exactement. Autre point, les clauses du contrat. Une option de remboursement anticipé, ça change le risque, donc potentiellement le taux. Faut y faire attention. Et enfin, méfiance avec les prêts à court terme renouvelés sans cesse. Le fisc pourrait dire « Attendez, en fait, c'est un prêt à long terme déguisé. » Et là, l'analyse et le prix ne seraient pas les mêmes. Plus élevés sans doute. La règle d'or, c'est analyse précise des faits au moment T et une documentation béton pour tout justifier. Comparabilité et justification datée. Essentiel.
Bien noté. Rigueur, analyse de risque, documentation solide. Le trio gagnant pour la finance interne. On voit bien que c'est un domaine très structuré, très normé. Et c'est intéressant parce que l'autre sujet d'aujourd'hui nous emmène dans un univers souvent perçu comme l'inverse, la gestion des commandes clients. Un processus souvent décrit comme plus désordonné, on va dire.
C'est une excellente transition, oui. On passe du monde financier très carré à un défi opérationnel quotidien qui, selon la source, relève souvent du chaos. Le problème, c'est le traitement de toutes ces commandes qui arrivent dans tous les sens. Fax, PDF scanné, email, parfois même des plateformes spécifiques à certains clients. Un vrai casse-tête. La source parle d'une bête de papier ou de PDF à dompter. Une masse d'infos pas structurées qui coûte cher en temps et en stress.
Ah oui, ça, je pense que beaucoup de gens dans la DV ou la logistique vont se reconnaître. C'est quoi les symptômes de ce chaos qui sont décrits ?
Ils sont nombreux. D'abord, une grosse dépendance envers quelques employés clés, ceux qui connaissent tout, les clients, leurs habitudes, les codes produits bizarres. La source appelle ça « zokujinka » en japonais, la dépendance à l'individu. C'est super risqué si la personne part ou est malade.
C'est la panique.
Exactement. Ensuite, les erreurs de saisie manuelle, inévitables quand on traite des volumes. Ça donne des livraisons ratées, des retours, des clients mécontents, et ça coûte cher à corriger. Il y a aussi les heures sup juste pour arriver à traiter le flux. Et enfin, ça freine la croissance. Difficile de gérer plus de commandes parce que former quelqu'un sur ce savoir-faire non écrit, ça prend un temps fou.
Face à ça, on pourrait penser à l'OCR, la reconnaissance de caractère. Ça existe depuis longtemps, mais la source dit que ça a ses limites.
Tout à fait. L'OCR classique, même s'il est meilleur qu'avant, il lit les caractères, les mots, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas le contexte, l'intention. L'exemple donné est super parlant. Un client commande, par fax, Momo Jelly. Peut-être une faute de frappe ou son abréviation habituelle. L'OCR lit Momo Jelly. Si ça n'existe pas dans la base article, il bloque ou il met une erreur. Alors qu'un employé expérimenté, lui, il sait. Il voit Momo Jelly, il se dit « Ah oui, ce client, il prend toujours la domestic pitch jelly » et il corrige. C'est cette capacité d'interprétation, de jugement, basée sur l'historique, que les anciens joutis n'avaient pas. Ils butaient sur l'imperfection du réel.
Et c'est là que l'IA arrive. Les AI agents, comme dit la source. C'est quoi exactement ? Juste un OCR plus malin ?
Non, c'est beaucoup plus. La source les voit comme des membres d'équipes digitaux. L'idée, c'est qu'ils apprennent le savoir-faire spécifique de l'entreprise des experts humains. Ça marche en trois étapes, un peu comme nous, les yeux, le cerveau, les mains. Les yeux, c'est un AI OCR nouvelle génération. Très fort pour lire presque tous les formats sans modèle prédéfini. Fax, PDF images, email. Ensuite, le cerveau. C'est le cœur. Une IA qui analyse les données extraites. Elle l'interprète, elle compare avec l'historique client, les données produits, les règles métiers. Elle essaie de comprendre l'intention, même si c'est mal écrit, incomplet. Elle corrige, elle déduit, elle valide. Et enfin, les mains. Une fois que le cerveau IA a tout bien compris et structuré, l'agent injecte les données propres dans l'ERP, le système de commande.
Ce cerveau IA, c'est ça la vraie nouveauté alors ? L'interprétation. On a un exemple concret, ça change ?
Oui, et l'exemple est frappant. Une commande arrive pour gourmet saucisse 1 kg PB. Un système classique, basé sur la correspondance exacte, il va planter ou demander une vérif manuelle. PB, ça n'existe pas. L'agent IA, lui, il réfléchit. Il analyse. Ce client commande souvent des saucisses. PB peut être private brand. Dans son historique, il a commandé plusieurs fois la REF 10211, gourmet Nikuten saucisse 1 kg. C'est très proche, c'est sûrement ça. Donc, non seulement l'IA trouve la bonne référence, 10211, mais elle peut aussi voir que c'est conditionné par 6 et ajouter l'info si besoin.
C'est bluffant. Elle ne fait pas qu'appliquer des règles, elle déduit, elle fait un jugement contextuel. C'est ça le game changer.
Précisément. C'est ça qui change tout. Ce n'est plus juste de l'automatisation bête et méchante. C'est de l'automatisation intelligente, capable de gérer le flou, l'imprécis, les à peu près du quotidien. Elle reproduit une partie de l'expérience des experts humains. C'est cette capacité à gérer l'imperfection qui permet enfin d'automatiser un processus qui résistait.
Et l'impact sur le travail des équipes, ça a l'air énorme.
Radical, oui. La source compare l'avant et l'après. Avant, ne l'heure du mat. On trie, on saisit manuellement. C'est long, stressant, source d'erreur. Après l'IA, l'agent a bossé toute la nuit. Le matin, l'employé arrive, il vérifie juste les quelques cas limites, les exceptions. Résultat, à 11h, les ordres de prépa sont déjà partis à l'entrepôt. Alors qu'avant, on était encore en train de saisir.
Waouh !
À 13h, les camions peuvent partir. L'efficacité est décuplée. Et l'IA, elle, continue 24/7.
Gain de temps énorme. Mais les employés, alors ?
On les remplace.
Ce n'est pas présenté comme ça. L'idée, c'est plutôt de transformer leur travail. L'IA les libère des tâches répétitives, peu valorisantes, stressantes. La saisie, quoi. Et ça leur permet de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Résoudre les problèmes clients complexes, gérer les litiges, analyser les données, améliorer la relation client. Faire le boulot que seuls les humains peuvent faire, dit la source. C'est plus un redéploiement des compétences. Et apparemment, ça marche. Une étude pilote sur 5 entreprises aurait montré une précision de 99,7% de l'IA pour reproduire le jugement humain. C'est presque une digitalisation du cerveau des experts métiers.
Digitalisation du savoir-faire expert. Fascinant. La source va même plus loin sur la nature du savoir dans l'entreprise. Oui, c'est une réflexion intéressante. Aujourd'hui, former quelqu'un, ça prend du temps, de l'argent. Et quand la personne part, une partie de ce savoir, souvent informel, s'en va avec elle. C'est une perte pour l'entreprise. L'agent IA, une fois entraîné, c'est différent. Son savoir est capturé, formalisé. C'est un actif durable. On peut augmenter sa capacité facilement, ce qu'elle est. Il n'est jamais malade, ne démissionne pas. Le savoir-faire critique devient un bien de l'entreprise, pérenne.
Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, la finance intragroupe d'un côté, le chaos des commandes de l'autre, qu'est-ce qu'on retient ?
C'est intéressant de les mettre en parallèle. D'un côté, pour la finance, on a vu l'exigence absolue de rigueur, d'analyse du risque, de justification. C'est la conformité, mais aussi la logique économique interne, la précision RN.
Et de l'autre côté, l'IA qui monte en puissance. Pas juste pour automatiser, mais pour comprendre le contexte, l'intention, même quand l'info est imparfaite. L'IA comme outil pour transformer le chaos en efficacité, et peut-être même pour préserver le savoir-faire.
C'est ça. Et ce qui est frappant, c'est que malgré les différences, les deux domaines convergent sur des points clés. L'importance de l'analyse fine des données, la nécessité d'évaluer précisément une situation, que ce soit la solvabilité d'une filiale ou l'intention d'un client, et le recours à des outils de plus en plus sophistiqués, modèles de notation, IA, pour traiter l'info de façon fiable, rapide et intelligente.
Cette convergence vers l'analyse de données, l'évaluation contextuelle, l'automatisation intelligente, c'est un point commun fort, effectivement. Et ça ouvre une question plus large, pour finir, au-delà de l'optimisation de tâches spécifiques. Comment cette digitalisation de plus en plus poussée, cette automatisation capable de juger, pourrait remodeler le fonctionnement même des entreprises ? la structure des équipes, les compétences nécessaires, la création de valeur. C'est peut-être ça le prochain grand chantier. Une réflexion à poursuivre, certainement.